Radio Pulse.
C'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien. On dit ces bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi, je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est testicide.
Oh,
faut arrêter le testicide.
Ah.
La Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
Just another twisted game. Only I know the rules to play. And that is why I got you off the bed. And here we are in this small cafe, whispering softly, this is the end. My mind has changed, and your love is vain. I thought it would be easy to do it this way. In an average bar with no memory. It's been a while since either of us has spoken. When the waiter calls for more refill, your tea is cold, your eyes are suddenly wet. When you lift them in, you stare right at me, begging me proudly, don't break my heart. I know I can change. We need a new start. I deserve an argue. Let's go to our place, not this filthy bar where nobody is. Customers act like they didn't see when you threw your glass straight at me. They know the play, it happens every day, and it always ends the same. Passing the doorway, we'll go apart. My heart is free from your heart. This is the last time we say goodbye. It's a breakup bar.
Des postes qui annoncent du cœur. quer ir corredor, tem a mesma cor, não é fácil.
C'était le morceau Supertrauma de l'album de Laure Briard, sorti sur le nouvel album de cette Ferra Rock, Et Uveuil, sorti sur le label Midnight Special Records le 19 février 2021. Et tout de suite, c'est notre interview avec Julien, bassiste chanteur et un des deux membres permanents du groupe de heavy rock français Seven Weeks. Comment s'est formé le groupe Seven Weeks ?
Oh ben... Comme beaucoup de groupes, je suppose, c'est-à-dire des gars qui ont les mêmes influences, les mêmes envies. Et à l'époque, c'était en 2006 qu'on s'est rencontrés tous et on voulait faire quelque chose d'assez heavy, d'assez lourd, mais en même temps très mélodique. À cette époque-là, les groupes comme Queen of the Stone Age ou Foo Fighters étaient des groupes qui avaient un impact assez considérable sur le retour du rock. Le rock lourd, j'entends, et on voulait être dans cette mouvance-là, et on a commencé, moi j'ai commencé à maqueter des morceaux, et puis j'ai trouvé des gens pour les jouer, qui avaient un peu les mêmes envies, et puis c'est parti comme ça, et à partir de 2007, on a commencé à faire des concerts.
Vous venez d'évoquer Queen of the Stone Age et Foo Fighters, qui sont des groupes heavy rock, stoner et tout ça, comment est-ce que vous définissez votre style musical ?
Nous, on dit qu'on fait du heavy rock, parce que longtemps on a été catalogué stoner ou metal et ça fait partie de nos influences, mais c'est pas du tout pour nous le style qu'on fait. Nous on fait vraiment un rock qui est lourd. J'entends par lourd que ce soit dans les tempos aussi dans la manière de composer, c'est quelque chose d'assez on est puissant, on n'est pas violent. Le metal peut être violent, nous on est, c'est pour ça qu'on n'est pas metal, on est plutôt puissant violent. Donc les J-rock c'est quelque chose qui nous semble bien convenir à ce qu'on fait, et on a un aspect aussi très mélodique qu'on met en avant, donc ce côté rock est important pour affirmer ce plan-là, quoi.
Comment est-ce que s'organise la composition au sein du groupe ? Est-ce que chacun vient avec une petite idée, ou est-ce que quelqu'un vient avec un morceau plus ou moins défini et vous brodez dessus ?
Non, ça dépend. Je suis le principal compositeur du groupe depuis le départ. C'est ce qui a permis au groupe, malgré les divers changements de line-up, de garder une unité dans le son et dans la couleur. Donc il n'y a pas de recette, il y a des morceaux qu'on a fait en groupe à quatre, comme on a des morceaux qu'on a fait où j'ai quasiment tout composé de A à Z à part la batterie, et même tout enregistré en studio. Ça dépend vraiment de l'effet voulu, de l'effet recherché, de la dynamique du groupe à tel ou tel moment de la composition et du line-up aussi, puisqu'il y a, on a des albums qu'on a composés et enregistrés à deux avec le batteur, puisqu'on est les deux seuls du début qui restons de la formation de base. Il n'y a que Jérémy et moi qui sommes là depuis le départ. Et en 2015, par exemple, on a sorti un album en 2016, on a sorti un album qu'on a enregistré et composé à tous les deux uniquement. Donc il n'y a pas de recette.
Vous avez sorti un EP qui s'appelle What's Next, en lien avec les morceaux de votre précédent album. Pourquoi justement ne pas les avoir sortis sur cet album Sisyphus en 2020
Parce qu'à part un, le premier titre, Intimate Arts, les autres n'existaient pas, donc on n'aurait pas pu les sortir. Intimate Arts, on l'a mis de côté parce qu'on le trouvait trop sombre par rapport au reste de l'album, qui est peut-être l'album le plus lumineux, le plus solaire de toute notre discographie. Et celui-là était un peu sombre, on avait dit, c'est pas la peine de le mettre dans le tracklist, il va un peu déséquilibrer l'homogénéité de l'album. On pourra le sortir en single plus tard, et bien sûr, on savait pas qu'il allait se passer ce qui s'est passé, quoi. Et quand on s'est retrouvé pendant le premier confinement, on s'est dit, on va pas rester à rien faire. Donc on a commencé à bosser sur des singles à sortir. Donc on avait celui-là, le Intimate Arts, qui était déjà écrit et mixé. Et puis on a commencé à bosser sur une reprise de King Crimson. Et puis on avait aussi d'autres morceaux qu'on n'avait pas eu le temps de finaliser, qui étaient restés à l'état d'ébauche de travail, comme My Valhalla, qui est disponible sur la version vinyle. Et on avait des acoustiques, on avait envie de faire des acoustiques qu'on n'avait pas mis dans Sisyphus. Et donc, c'était l'occasion, on a réuni tout ça dans ce EP. Et on tenait à ce qu'il y ait un lien vraiment très très fort avec Sisyphus, parce que pour nous, c'était la réponse au fait que Sisyphus n'avait pas pu être exploité. Et tous ces morceaux ont un rapport, c'est-à-dire que les acoustiques sont des morceaux de Sisyphus, mais en acoustique. Et les autres morceaux sont soit des morceaux... ce sont des morceaux qui auraient dû être sur Sisyphus, si à une période on avait poussé dans cette direction-là, et il s'est avéré qu'on a préféré aller dans une autre direction, mais ils ont tous un rapport avec Sisyphus. Ils ont fait partie de la même période de travail et de composition, par exemple. Donc c'était important pour nous qu'il y ait une vraie logique, et c'est ce qu'on a mis en avant avec ce EP. Et pour finir, ce qui est très important aussi, c'est que Sisyphus est très symbolique dans ses textes et dans sa manière d'être. Notamment au niveau de ce qu'on a voulu dire, c'est-à-dire ce besoin perpétuel d'avancer malgré les embûches, ce qui est un peu toujours la vie d'un groupe de rock. Et What's Next est vraiment la preuve qu'on avait envie de se relever après la chute du rocher de Sisyphus, qui est arrivé très rapidement, puisque un mois après la sortie de l'album, on était en confinement, quoi.
Justement, tu viens de parler du confinement, de la Covid-19. Tu viens de parler de ce qu'a vécu le groupe pendant la Covid-19. Mais toi, personnellement, comment as-tu vécu cette crise sanitaire?
Je dirais plutôt bien au vu de la situation, parce que on a tout de suite trouvé... c'est l'avantage d'être un groupe indépendant, comme on est. Alors on est nos propres producteurs, on est notre propre label, à part la distribution, on fait tout. Et l'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup de travail, mais en même temps, ça nous permet de réagir très rapidement. C'est-à-dire que en fin avril, on savait qu'on allait faire un disque, et on l'a enregistré en juillet. Donc ça va très vite. Ça, si tu as d'autres personnes autour de toi, des intermédiaires, un label et tout, tu peux pas mettre ça en branle en deux mois, c'est impossible. Nous, on peut, on a les moyens de le faire, là, on a la réactivité nécessaire. Donc en fait, on s'est jamais retrouvé à rien faire et à subir la situation. On a tout de suite travaillé sur le EP. Ensuite, on a travaillé sur des clips pour illustrer ce EP. On a fait 4 clips. Donc on a été hyper occupés, et puis on a plusieurs cordes à notre arc, c'est-à-dire que, par exemple, on a travaillé des morceaux acoustiques, parce qu'on s'est dit, si ça se trouve, il va y avoir que des possibilités de faire des concerts acoustiques, et comme on venait d'enregistrer un album avec des morceaux acoustiques, on s'est dit, pourquoi pas en travailler plus. On a aussi retravaillé sur un ciné-concert qu'on avait fait il y a quelques années, parce qu'on s'est dit, quitte à faire des concerts assis, autant le faire dans des vraies conditions, c'est-à-dire proposer un ciné-concert qui est normalement un concert qui est dans une salle de cinéma, donc forcément les gens sont assis. En fait, on était très occupés et on n'a pas arrêté. Donc, on l'a plutôt bien vécu, c'est-à-dire qu'on n'a pas vécu... Moi, j'ai des amis qui se sont retrouvés à se dire « Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? On sait pas quoi faire et tout. » Nous, on savait quoi faire. Donc, ça nous a empêchés de s'apitoyer un peu sur notre sort. Donc je pourrais pas dire qu'on l'a mal vécu. Par contre, c'est vrai que ça commence à être long de pas faire de concert. Mais ça, c'est autre chose, on n'y peut rien, et puis c'est comme ça, quoi.
Beaucoup de magazines et de radios ont parlé de votre dernier album, rarement mauvais. Comment est-ce que vous avez vécu cela?
Bah bien, bien. C'est toujours agréable d'avoir des bons échos de ce que tu fais. Ce qui est gratifiant, c'est de bon. C'est super que qu'on nous dise votre album il est bien, mais ce qui est plus important pour nous, c'est que les médias évoluent. En fait, on va réussir à toucher des médias qu'on pouvait pas toucher avant. On va réussir à avoir des retours sur la qualité d'écriture, sur l'existence du groupe, le côté tenace du groupe, conceptuel, d'être dans la recherche, de vraiment se renouveler à chaque album. Ça, c'est super. Moi, je préfère quelqu'un qui va me dire j'aime pas tout l'album, mais je trouve que c'est très osé, plutôt que quelqu'un qui va me dire ouais, votre album, il est super comme tous les autres. Tu vois, c'est ce qu'on a vraiment ressenti avec Sisyphus et What's Next, c'est que les gens voyaient les prises de risque que l'on aime prendre, comme la reprise de King Crimson qu'on a fait, qui est vraiment un groupe que personne n'aurait pensé que ça venait, que ça allait reprendre, ou des acoustiques qu'on nous attendait pas vraiment là, quoi. Et ça, c'est une prise de risque, et c'est très agréable de voir que ça plaît, parce que nous, c'est ce qu'on aime, c'est jamais faire la même chose, quoi.
Tu penses qu'il est vital pour un groupe de justement pouvoir s'adapter, justement se mettre sortir de sa zone de confort pour pouvoir évoluer?
Je sais pas, moi j'adorerais être ACDC, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, j'adorerais avoir une recette qui est tellement fédératrice que t'as même pas besoin de la changer. C'est pas que ACDC sont des fainéants ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ACDC c'est tellement génial que tu t'en fous, que ça soit un peu toujours la même chose. Je connais très bien ACDC, c'est pas toujours la même chose, mais on est toujours dans les mêmes gimmicks, un peu la même manière de faire et tout. Mais c'est tellement incroyable, c'est tellement parfait que c'est pas grave. Mais nous, on n'est pas dans cette... déjà, on n'est pas du tout dans cette classe-là. Donc, j'estime que des groupes comme nous, qui sont des groupes de seconde zone, on ne fait pas partie des grands groupes, comme des grands groupes, on les connaît tous. Nous, on est un groupe comme des milliers, des dizaines de milliers d'autres. Le seul truc que tu peux faire, je pense, c'est te renouveler, parce que si tu fais toujours le même album alors que t'es pas connu, ça n'a pas grand intérêt, quoi. C'est pas très excitant. Alors je donne aucune leçon, chacun fait ce qu'il veut, mais nous on pourrait pas faire toujours le même album, déjà parce qu'on n'y arriverait pas. On a déjà essayé, hein, on n'y arrive pas. Quand t'as sorti tes riffs une fois d'une telle manière, je sais pas comment tu peux en faire d'autres. Nous on peut faire on n'a pas vraiment de limite, en fait. D'accord. Donc on aime bien se renouveler.
Maintenant, Julien, si ça ne te dérange pas, j'aimerais te poser des questions un petit peu plus légères et qui permettent d'apporter un petit peu de fun à l'interview. Je préfère garder ça pour toi. Si vous deviez jouer avec Seven Weeks dans n'importe quelle salle ou festival, vous iriez où?
Je suppose que j'aimerais bien vivre. Vivre un vrai concert là où le rock est vraiment culturel. C'est-à-dire au fin fond des États-Unis, ou au fin fond des États-Unis, c'est-à-dire dans un ballroom, un truc comme ça. J'aimerais bien vivre ça avec un public qui est là, parce que ils n'écoutent que ça depuis toujours. C'est leur musique, c'est leur truc. Ça, j'aimerais bien vivre, c'est-à-dire aller tourner aux États-Unis, mais vraiment tourner dans les endroits vraiment des États-Unis profonds, là où c'est la patrie du blues, du folk, du rhythm and blues, du rock and roll, là où c'est mieux, quoi. J'aimerais bien aller voir ce public-là, et en même temps, je serais terrorisé de le faire. Mais parce qu'on se rend pas compte ici, mais il y a une vraie dimension culturelle concernant le rock avec les pays anglo-saxons que nous on perçoit pas ici, quoi. Mmh. Là-bas, tu peux pas tricher. Donc ici, on est un peu plus, c'est un peu plus facile ici. Voilà.
Un groupe avec qui vous aimeriez beaucoup travailler?
Bon, il y en a plein. Il y en a plein, parce que je dirais tous les groupes dont on est fan, mais donc la liste elle est hyper longue parce qu'on écoute quand même beaucoup de choses. Je sais pas, moi, toutes nos idoles, quoi, tu vois, elles sont pas encore toutes mortes, heureusement, donc j'adorerais travailler avec King Crimson, comme j'adorerais travailler avec Metallica, tu vois, ça, y a pas de... Peu importe, en fait, ça doit être génial de rencontrer des gens comme ça qui sont de telles icônes et qui ont apporté autant à la musique. Ouais, j'aimerais bien travailler avec n'importe laquelle des idoles que qu'on peut avoir.
D'accord. Si tu devais prendre trois albums sur une île déserte en attendant les secours, tu prendrais lesquels et pourquoi?
Alors, je prendrais... je pense que je prendrais Injustice for All de Metallica. Parce que c'est le souvenir le plus fort de quand j'ai commencé à écouter de la musique. C'est le souvenir le plus fort de quand j'ai posé un disque sur la platine et que j'ai écouté le début du disque, l'intro de Black End. C'est un souvenir extrêmement fort. Donc c'est ma Madeleine de Proust, j'y suis extrêmement attaché. Donc je pense que j'emmènerai le live de Motorhead No City Hammersmith, parce que pareil, c'est un truc très très fort. Et j'emmènerai Red de King Crimson, parce que cet album est incroyable. Un des plus grands albums de toute l'histoire de la musique, je pense.
Si tu pouvais te parler à toi plus jeune, tu lui dirais quoi?
Je lui dirais perds pas de temps avec des blocs.
Très bien. Ok. Et du coup, y a-t-il des projets avec l'EP? Donc, il y a l'EP qui est sorti cette année, mais va-t-il y avoir de nouveaux clips musicaux, des live streams, et est-ce que vous travaillez sur de nouveaux albums pour 2021?
Oui, ce EP, on en a tiré 4 clips, ce qui est sur quand même 6 titres, donc c'est assez, assez balèze. Je crois que c'est plus de clips qu'on a sorti dans toute notre carrière. Sur ce disque-là. Donc il y en a un qui est sorti encore fin janvier, là, le 31 janvier, on a sorti Sisyphus en acoustique. On a fait un live stream la semaine dernière, c'était vraiment... J'y aurais pas cru, on a trouvé ça très très chouette à faire, même si bien sûr ça n'a rien à voir avec un concert avec du public, mais c'était émouvant en fait, presque, de pouvoir se retrouver dans la situation de concert quasiment. Et bien sûr, on prépare la suite. C'est un peu compliqué de préparer la suite. Tu voulais des questions, des réponses légères, je ne vais pas t'en donner, mais c'est un peu compliqué de préparer la suite parce que, en fait, tous les 15 jours, la situation change et donc on est obligé de se repositionner. En décembre, en janvier, on devait faire des ciné-concerts. Donc, on a su, suite à la locution du demi-janvier de Castex, qu'on ne pouvait pas les faire. On s'est concentré sur un live stream, ça on a pu le faire. Là, on sait qu'on a des dates de concert à partir de avril, mais à mon avis, elles ne vont pas avoir lieu. Donc, bien sûr, en parallèle, on travaille sur de nouveaux morceaux, mais comme tout le monde, parce que de toute façon, on n'a que ça à faire. Voilà, on essaie de prévoir un peu sur tous les tableaux, c'est ça qui est assez compliqué, c'est beaucoup de travail sans perdre la concentration et le but principal qui est de toujours développer le groupe et revenir sur scène à un moment, quoi.
C'était notre interview avec Julien Bernard, chanteur-bassiste et un des membres permanents du groupe français Seven Weeks. Et tout de suite, un morceau de leur nouvel album qui s'appelle Sisyphus, un morceau que j'affectionne particulièrement qui s'appelle The Crying River. We'll be right back.
Cette radio fait partie de la Ferrarock, la fédération des radios associatives musique actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferrarock.org.
Et tout de suite, je vais vous présenter l'album Focus de Brookline, sorti le 19 février 2021 sur Mouton Noir. Brookline compose ses premiers morceaux en 2016. Étincelle dans l'univers de la musique électro-dark, il est vite repéré par Mouton Noir Records, chez qui il sort son premier EP Paradox. Il sera suivi de plusieurs singles et remixes, qui se diront Rhône ou encore Molécule. Du crépuscule à l'aube, la nuit inspire Brookline. Son album, qui sortira le 19 février, en est l'incarnation. Coproduit avec Nicolas Leury, Christine, Focus nous emmène dans une exploration ténébreuse en plein cœur de la nuit, ce vide qui nous encourage à la création à condition de ne pas tomber dans les abysses et l'euphorie des démons nocturnes. Focus, c'est ce point fixe vers lequel convergent les rayons lumineux, c'est cet instant qui polarise l'artiste et l'extrait de sa torpeur. Focus, c'est aussi la mise au point, l'introspection d'un jeune producteur face à son avenir. Tout de suite, nous écoutons son morceau Rôdeur, issu de cet album.
Radio Pulse,
c'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne encore de route.
Bien. On dit des bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Mais je dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
Test testicide.
Oh,
arrêtez le testicide.
Ah,
la Radio Pulse.
Bien.
La radio qui unique les oreilles.
Bien.
Donc Fred de la chaîne Outlanders, peux-tu expliquer comment t'es venue l'idée de monter cette chaîne YouTube?
J'avais envie de faire des conneries sur YouTube. Voilà.
Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont influencé en particulier?
Oui, et pas qu'un peu. Bon, en premier, il y a quand même Monsieur Weirdo, parce que lui, ça a été vraiment la énorme source d'inspiration, mais genre de ouf. Alors c'est bon, c'est sûr que je regarde beaucoup d'autres youtubeurs, d'autres youtubeuses. Hein, on reste sur les classiques un peu avec les gens de la Redbox comme Mastu et tout ça. Mais Monsieur Verdo, c'est vraiment le mec que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah mais non, mais il faut que je sois dans la même fibre que ça, quoi. On se prend pas la tête et c'est génial, c'est incroyable.
Donc la chaîne s'appelle Outlander Post-Apocalyptic Universe. Pourquoi avoir décidé de parler de ce thème?
Alors là, le thème du post-apo, c'est vraiment mon gros dada. J'ai une passion juste incroyable pour le post-apo et puis aussi pour tout ce qui touche à la science-fiction, le cyberpunk et tout ça. Donc en soi, ça reste pas que sur le post-apo, c'est aussi, ça englobe pas mal de sous-genres comme ça, très dystopiques, très à fond dans. On va dire dans l'univers un peu brutal, froid, qu'est le post-apo, le cyberpunk et tout ça. Et je suis surtout aussi dans le délire années 80. Dans les années 80, faut dire ce qu'il y avait, hein, c'est que il y avait un énorme boom, mais de films post-apo, pas forcément après la sortie des films Mad Max. Tout le monde s'est dit, mais attendez, ça a marché, ben on va faire aussi nous nos propres films post-apo. Et souvent c'était bien des nanars. Et je kiffe ces nanars, c'est complètement con. Voilà.
Ouais, justement, ta chaîne, elle est pleine de références à la pop culture des années 80. On voit par exemple des génériques très travaillés avec une écriture un petit peu néon, très très kitsch. Et
ouais,
je voulais savoir si tu avais un lien particulier avec cette décennie, à part le post-apo.
si j'avais un lien avec cette décennie, c'est ça que t'as dit?
Oui.
C'est une très bonne question parce que je n'ai jamais pensé trop à ça. En fait, j'ai grandi dans les années 90, mais il faut savoir que à cette époque-là, il y avait encore énormément d'influence des années 80. Hein. Je veux dire, moi, j'ai surtout vécu avec mes cousins, mes cousines qui étaient bien plus grands que moi et qui avaient encore leurs jouets des années 80 et tout ça. Et je crois que je suis vraiment restée bloquée dans cette nostalgie. Ouais, c'est ça, en fait, je suis restée bloquée dans cette nostalgie et c'est ça qui fait que je jamais vraiment on va dire été très contemporain, on va dire. Voilà, je suis toujours restée dans ce délire-là. Par exemple, quoi dire, je suis très fan de rétro gaming, je kiffe le rétro gaming, mais de quelque chose de fou, et j'aimerais bien rebrancher mes vieilles consoles. J'aimerais bien proposer un peu de jeux, pas sur ma chaîne mais sur une chaîne secondaire. De vieux jeux, mais il faut dire ce qu'il en est, je suis un peu nulle sur les vieux jeux vidéo, je suis vraiment une grosse quiche. Donc je sais pas, j'hésite, mais oui, je suis toujours restée dans ce gros délire-là, mais il faut savoir aussi qu'en plus, ça revient énormément à la mode, rien qu'avec la synthwave, par exemple, ce courant musical totalement mais inspiré des années 80, hein, vraiment, on va dire, c'est vraiment le point de départ avec leurs clips ultra kitsch, hein, comme les clips de Carpenter Brut ou de Perturbator et tout ça. C'est extrêmement, ça revient vraiment à la mode, c'est ce gros move de nostalgie qui vient comme, en fait, oui, d'une époque insouciante où on pensait pas au lendemain, on pensait à l'instant présent et on vivait vraiment à fond avec des vieilles bagnoles qui polluaient énormément et des vieux PC qu'il fallait encoder 5000 codes pour pouvoir jouer à un jeu, quoi. Donc voilà, je crois que c'est vraiment nostalgique en fait.
Et donc, tout à l'heure, tu parlais de jeux vidéo. Est-ce que ça t'intéresserait de créer ta chaîne Twitch ou une chaîne gaming spécifique?
Eh ben justement, tu parles bien de Twitch parce que j'ai déjà créé une chaîne Twitch, mais j'ai un énorme problème, c'est que j'ai une connexion de apocalyptique en fait. Et c'est pas faute d'avoir tanné les fournisseurs internet pour demander est-ce que mon bunker peut être relié à la fibre. Tout le monde dit oui, bien évidemment, tout le monde dit oui, et d'ailleurs ça devait être fait avant 2021. Ben, sauf que bon, ben je crois que c'était du marketing pour dire non, non, restez chez nous, vous inquiétez pas, on vous aime, mais non. Donc du coup j'ai une connexion de merde et je dois prendre mon mal en patience et ça me frustre parce que j'ai vraiment très envie de faire des lives, mais vraiment très envie. Il n'y aura pas que des jeux vidéo, il y aura aussi du dessin. Et bon, en attendant, je rage, quoi. Voilà, je rage.
D'ailleurs, en faisant un lien avec le dessin, ta chaîne YouTube est quand même pleine de formats qui n'ont rien à voir les uns aux autres. On a du vlog, du vlog, oui, tout à fait, du vlog, de l'unboxing, du dessin et plein d'autres trucs. Et je voulais savoir comment est-ce que ça a germé dans ta tête l'idée de mettre tous ces formats-là?
Mais parce qu'en fait, je me prends pas la tête. C'est ce que beaucoup de youtubeurs appellent une chaîne fourre-tout où tu as une idée, tu le fais. Au départ, c'est vrai que je voulais vraiment juste rester dans un thème post-apo et purement que ça. Puis je me suis dit, oui, mais bon, ça va vite tourner en rond. Et moi, j'ai envie de proposer vraiment mais tout ce qui me plaît, tout ce qui fait partie de mon univers. Et si jamais un jour je me lève et que j'ai une idée, par exemple le marathon, ça personne ne le sait, mais j'ai trouvé l'idée, mais le matin en me levant, c'était la réouverture des bars et je me promenais à Nancy avec mon copain. Et là, je tombe sur une pote et on se regarde, on se dit, écoute, je lui explique mon idée. Et elle fait, mais attends, on est banco. Je suis vite rentrée chez moi, j'ai chargé la caméra, j'ai vidé la carte SD et on est parti. Ouais, c'est vraiment, j'ai une idée, je la fais et puis je me prends pas la tête. Après, voilà quoi. De toute façon, ça reste toujours dans un thème très années 80, donc j'adapte toujours mon idée pour que ça soit un peu, voilà, que ce soit un peu quoi, en raccord au niveau ambiance, au niveau visuel, quoi. Ça, c'est vraiment le seul truc vraiment que je travaille pour pas que ça soit trop un peu dispatché, quoi.
Et tu penses continuer sur le long terme? Et sinon, à part avoir la fibre, bien sûr, ce serait quoi tes projets?
Alors, les projets, je crois que j'en ai beaucoup trop et c'est mon gros problème. J'ai trop d'idées et j'ai un carnet avec mille et une idées et je me dis, bordel, comment est-ce que je vais faire tout ça? Alors, en projet vraiment futur, ben, c'est continuer déjà... dans ce domaine-là, vraiment, que dire, partir en what the fuck et compagnie. Il y aura beaucoup plus de vidéos qui seront vraiment filmées au bunker même, parce que j'ai fait un très très beau studio, hein, pour ceux qui savent pas, il est juste magnifique. Mais le souci, c'est que à la base, je voulais vraiment faire beaucoup de vidéos extérieures, mais c'est bon, déjà avec l'histoire du corona, ça m'a fait un peu la douche froide. Je me suis dit, ouais non, filmer dehors, c'est chiant. Voilà. Et puis, en plus, forcément, à force de... Comment expliquer ça? J'ai un peu du mal à m'expliquer aujourd'hui. Hein. On sent que j'ai fait la fête ce week-end.
Il n'y a pas de souci. C'est
la catastrophe. Pas de pression. La gueule de bois, un truc de malade. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi, en faisant plus de vidéos dans le bunker, en faisant des vidéos réactions où je découvre des choses, où je partage vraiment des choses que j'ai découvertes de manière totalement what the fuck aux survivants. Donc les survivants, ce sont mes abonnés. C'est une putain de communauté. Elle est géniale. Et bien, je me suis rendu compte que c'était aussi plus facile parce que le problème, c'est que faire des vidéos dehors, c'est prendre plusieurs prises de vue, c'est chronophage. Quand il faut des accessoires, c'est coûteux. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je vais plus m'orienter vers quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus impulsif, on va dire. Hein. Je me lève, je vais dans mon bunker, j'allume la caméra. Et voilà. Mais sinon, quand il y a dans les autres projets, c'est... Ouf. J'en dis beaucoup trop, quoi. C'est ben peut-être créer, ouvrir un Teespring pour faire des t-shirts avec mes illustrations ou des trucs comme ça. Mais ça, j'y réfléchis encore, parce que je dois encore faire des illustrations. C'est, oui, j'ai beaucoup trop d'idées, voilà. Et je parle beaucoup trop.
Mais non, c'est bon, t'inquiète. Justement, tu as mentionné le coronavirus, la Covid-19. Comment est-ce que ce virus t'a impacté au sens YouTube et personnel?
Au départ, j'avais plein de projets à faire dehors, des trucs vraiment où je vais dans des petits urbex dans les alentours de Nancy pour faire des présentations un peu comme mes premières vidéos où j'ouvre des boîtes de conserve dans un urbex en mode survie. J'avais une idée même de faire des petits moments cuisine dehors comme ça avec vraiment des rations de survie et tout ça, vraiment essayer de refaire des bons plats à partir de trucs dégueulasses. Sauf que le problème, c'est que bon, forcément, il fallait rester chez soi, il fallait rester au bunker. Et ben, j'ai quand même pris, on va dire, ce petit défaut en avantage en me disant, ben, c'est la fin du monde, ben, autant jouer là-dessus. Et donc, d'où une vidéo où j'ai fait mes courses complètement habillées en post-apo dans la rue, mais j'ai eu du mal d'avoir les autorisations pour filmer dans le magasin, ce qui fait que la vidéo n'est pas, voilà, ne me plaît pas trop. Mais bon, mais j'ai vraiment pris, on va dire, cet impact comme une force. Et d'un côté, ben, ça m'a permis aussi de me remettre en question, de réfléchir à ce que je voulais faire pour l'avenir sur la chaîne. Et au contraire, ça m'a plutôt bah, ça a été un avantage, quoi. Donc, j'ai pu avoir plus de temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Et maintenant, je sais beaucoup mieux ce que je veux faire. Mais le souci, c'est que là, maintenant, tout de suite, j'ai quand même beaucoup d'idées à faire à l'extérieur. Et ça m'embête un peu quand même. Mais bon, on fait avec, comme on dit. Il faut avoir la force de continuer.
Et je vais poser un peu la question qui fâche. Hein. Penses-tu à te faire vacciner?
Ah bah oui. Pourquoi je ne me ferais pas vacciner? Après, c'est juste un vaccin. Bon, j'ai déjà fait mes vaccins contre les hépatites, contre les tétanos. C'est un vaccin contre un virus. Ben oui, pourquoi pas. Il y a bien tous les ans un virus, un vaccin contre la grippe normale saisonnière. Bon, ben, pourquoi pas. Bon, ce vaccin, je le fais pas parce que c'est plus pour les personnes âgées, on va dire, et que moi, je tombe jamais malade, j'attrape jamais la grippe. Mais bon, ouais, je me fais vacciner. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Pourquoi je me ferais pas vacciner, tout ça, c'est moi.
Oh oui, il y a certaines personnes qui sont réticentes. Oui. Ouais, donc
un Français sur deux, hein.
Ouais.
Bon, les gens vont dire, ouais, t'as un mouton. Eh ben, moi, je vais vous dire, voilà, c'est ça. En plus, c'est moi qui ai la laine, c'est pas vous.
D'ailleurs, récemment, tu as fait part de ton coming out trans. Est-ce que les retours ont été bienveillants de la part de ta communauté, les petits survivants?
Eh ben, là, ils m'ont juste... Waouh, ils m'ont tué, c'est incroyable. C'est juste des amours. Je les veux tous dans ma team post-apo, hein. Si jamais c'est la fin du monde, moi je fais une communauté avec tout le monde. Mais c'est une communauté de love. Il y a trop d'amour, mais ça a été mais des retours. Mais moi je m'attendais quand même à voir quelqu'un dans le tas qui fasse yeah, caca boudin ou je sais pas quoi. Non, vraiment, tout le monde a été mais des amours. Ouais, je sais pas quoi dire, quoi. J'ai même pas de mots pour mettre dessus tellement que c'est waouh. Vraiment, un truc de fou. C'est. Je reviens toujours pas. Vraiment.
Ok, bah on fait un bisou à tous les petits survivants. Et du coup, on va finir par des questions plus légères. Ton média, donc film, BD, musique, tout ce que tu veux, préféré sur le monde post-apo?
En BD, on va commencer directement les pieds dans le plat, c'est Tangirl. Voilà, y a pas à discuter, c'est Tangirl. C'est juste waouh.
Et en film?
Et maintenant... En film, bon, alors là c'est difficile parce que j'ai plein de films que j'aime bien, mais je crois que vraiment, bon là c'est indéniable, en plus grosse claque que j'ai eue de toute ma vie, c'est le dernier Mad Max, le Fury Road, où là, la première fois que je l'avais regardé, j'étais, ouais, je comprends rien, il y a des grosses bagnoles, ça fait pas très Mad Max alors qu'il se battait pour du pétrole, et la deuxième fois que j'ai regardé, mais je suis tombé amoureux du film, j'avais pas réussi à digérer la première fois que j'avais vu, et là ça a été... Je crois que je l'ai vu au moins 50 fois ce film, c'est pas possible. Pourtant, je regarde presque jamais des films parce que j'ai pas toujours le temps. Mais là, c'est le film vraiment qui m'a. Où j'ai dit, ouais, c'est bon, je peux bien perdre mon temps pour regarder ce film tellement qu'il est beau. Il est trop beau.
Et du coup, si tu devais décrire ta chaîne YouTube en trois mots, ce serait lesquels et pourquoi?
Ah! En trois mots. Ah!
Ah! On a perdu Fada.
Ah oui, là, ça va être difficile.
Elle s'est
rebootée. Retourne. Alors, trois mots. Bombe nucléaire, connerie et grossièreté. Et beaucoup de ro. Ro. Ro, oui, bombe nucléaire, ro et grossièreté.
Ça fait quatre, ça.
Oui, je rote beaucoup. C'est un truc que j'aime bien. J'aime beaucoup faire ça.
Ça passe toujours. Bon, bah écoute.
Disons que la bière, ça fait roter. Par contre, la vidéo, c'est nul, ça fait pas roter, ça me saoule.
C'était notre rencontre avec Fred de la chaîne Outlanders. Et tout de suite, mesdames et messieurs, je vais vous diffuser un morceau de circonstance, puisque pour ceux qui ont suivi l'actualité, les Daft Punk ont annoncé leur séparation. Alors, pour leur rendre hommage, ce soir, j'ai décidé de diffuser la musique Daft Punk, qui est un de mes morceaux favoris de Daft Punk, qui est sorti sur l'album Homework de 1997. Donc, avec le duo, bien évidemment, de Daft Punk, qui est Thomas Bangalter et Guy-Manuel Deomen Cristo. Et c'est aussi la première chanson avec laquelle il y a eu un clip de tournée sur ce Daft Punk.
La musicale.
L'amicale des radios musicales de Normandie
vous présente le local de l'étape.
Salut.
C'est Brookline. J'ai 23 ans, je viens de Rouen et je suis DJ compositeur de musique électronique. Ma musique, elle est à mi-chemin entre de la techno, de la French touch et de la bass house, on va dire. Et je m'inspire aussi beaucoup de musique de films, notamment les films noirs ou les films de science-fiction. De base, je suis graphiste, j'ai fait Gobelin, l'école de l'image. Du coup, tous les visuels qui vont pouvoir accompagner ma musique sont très importants pour moi. Des pochettes, aux clips en passant par la scénographie de mon live. Tous ces points me permettent de développer ma musique et en fait d'en faire tout un univers. Après deux EP et quelques singles, je viens de sortir mon premier album Focus. Focus, c'est 9 titres dans lesquels j'aborde ma vision de la nuit sous toutes ses formes, aussi bien le rêve que la créativité, la production et enfin la fête. Tout au long de l'écriture de l'album, je me suis inspiré de films qui tournaient sur un vieux vidéoprojecteur dans mon studio et aussi des souvenirs que j'ai de certains de mes concerts. Le but avec cet album, pour moi, c'est aussi bien d'accompagner des moments de vie que d'en explorer d'autres. Pour ça, je me suis entouré d'une belle équipe. L'enregistrement s'est fait chez Mouton Noir Records et Nicolas Leril de Christine m'a apporté un grand soutien dans tout ce qui va être recherche sonore. Trouver les meilleurs sons, les meilleurs instruments pour sublimer l'essentiel de l'album qui était l'énergie et l'espoir. Et Alex Serka, qui est photographe de Synapson, m'a aussi apporté une grande aide parce qu'il m'a aidé à réaliser tout l'univers visuel de l'album. Il s'est occupé de toute la réalisation des pochettes et des clips. Et ce qui a vraiment été cool dans notre travail, c'est que j'apportais les idées et lui a su les concrétiser et aller au-delà de mon idée de base. Et c'était vraiment un plaisir de travailler avec lui. L'album est dispo sur toutes les plateformes et sur Bandcamp. Venez me suivre sur les réseaux et sur YouTube pour découvrir les trois clips qui accompagnent l'album, Night Curves, To The Dawn et Focus. Bonne écoute et à très vite sur scène, j'espère.